Bon, bah, merci d'être ici avec nous pour cette causerie pour les nanotechnologies. C'est un plaisir de voir cette salle comble et aussi jeune, en moyenne. Donc, pour parler des promesses des nanotechnologies, nous avons deux invités. Ici, Philippe Aubert-Côté, qui nous vient du Québec, qui est un écrivain de science-fiction, comme c'est une espèce malheureusement trop rare en général, mais assez fréquente ici, qui a publié un certain nombre de romans. Le dernier étant, je crois, le jeu du démiurge que tu...
Le premier et le dernier pour le moment, mais j'ai plusieurs nouvelles de publier.
Alors, le premier et le dernier roman de Philippe Aubert dans le jeu du démiurge, dont on nous demande de rappeler qu'il dédicacera, que tous les auteurs dédicacent après leurs interventions à la librairie dans une heure. Et par ailleurs, Philippe Aubert est l'auteur d'un certain nombre de nouvelles qui traitent directement des nanotechnologies, dont on reparlera au cours de cet entretien. À côté de lui, Alex Greenberg, qui lui est un invité scientifique, multicasquette, qui est à la fois un physicien, un philosophe des sciences, qui travaille beaucoup sur les aspects, qui a sorti récemment un livre sur la mécanique quantique. Je crois que c'était la mécanique des étreintes sur les...
Juste après, ce sera aussi en dédicace.
Qui sera aussi en dédicace, bien entendu. Qui parle des phénomènes d'intrication quantique et de tas de choses qui méritent au détour si vous ne connaissez pas. Mais qui est aussi un grand spécialiste d'éthique des technologies émergentes, des nouvelles technologies, et en particulier, bien sûr, des nanotechnologies. Un nanospécialiste, me dit-il. Mais cela dit, je préférerais que tu fasses tes plaisanteries dans le micro. Pour que tout le monde en profite. Et en fait, je vais commencer par toi. Rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est relativement inhabituel d'associer l'éthique à des questions de dimension. Jusqu'à présent, l'éthique portait sur des questions morales, sur des questions de sentiments, de valeurs, pas du tout de la taille des objets considérés. En quoi est-ce que la nanotechnologie pose des problèmes éthiques spécifiques?
Déjà pour ça, il faut se demander ce que sont les nanotechnologies. Donc on va commencer peut-être par cette question. Vous êtes très nombreux pour parler des toutes petites technologies là, cet après-midi. Alors les nanotechnologies, tout le monde sait, je pense que nano, 10 puissance moins 9 mètres, bon, c'est une échelle, une taille. Est-ce que cela définit les nanotechnologies? La réponse à cette question est non. Les nanotechnologies, effectivement, il va s'agir d'une échelle entre 1 et 100 nanomètres, donc à peu près 10 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, quelque chose comme ça. Quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer avec notre imagination humaine habituelle. Mais les nanotechnologies, c'est pas du tout suffisant pour dire que c'est une échelle, parce que la chimie, finalement, bon, ça se passe à la même échelle. Même quelques molécules. Les toutes petites molécules biologiques, disons, déjà, c'est la même échelle. Bon, pourquoi? Alors, il faut ajouter quelque chose à l'échelle. Qu'est-ce qu'on va ajouter à l'échelle? L'échelle entre 1 et 100 ou entre 1 et 500 nanomètres, plus des propriétés nouvelles à cette échelle. Alors, les propriétés, quelles propriétés? Les propriétés optiques, électriques, magnétiques, tout ce que vous voulez, mécaniques, tout un tas de propriétés nouvelles à cette échelle-là. Donc, c'est une échelle plus des propriétés nouvelles. Mais est-ce que ça suffit à l'heure maintenant pour définir les nanotechnologies? Vous savez, on parle des nanotechnologies depuis la deuxième moitié, la fin des années 80. Mais ces propriétés... Déjà, en chimie, par exemple, on savait que l'argent pouvait devenir vert, que l'or pouvait devenir blanc. Vous connaissez tous l'or blanc. Et donc, ça, c'est en fonction de la taille des particules dont est composé le matériau. Et aussi, la forme est très importante à l'échelle nanométrique. Et donc, en quelque sorte, la nouveauté des propriétés, c'est important, mais il faut ajouter quand même quelque chose pour expliquer pourquoi c'est à partir de la fin des années 80 qu'on en parle, et pas à partir du 19e siècle, par exemple, avec la chimie. Et cette chose nouvelle qu'il faut toujours, toujours avoir en tête quand vous parlez des nanotechnologies, ce sont les nouveaux instruments. Alors, en philosophie des techniques, vous savez, comme on dit « chercher la femme » ou « chercher l'homme », en philosophie des techniques ou en histoire des techniques, il faut toujours chercher l'instrument. Et donc, c'est l'invention du microscope à effet tunnel et à la suite de ça, des microscopes à force atomique, tout un tas d'outils qui permettent d'agir, d'aller chercher atome par atome à cette échelle-là, d'agir, d'intervenir à cette échelle-là. Non de façon statistique, en masse, en bulk, comme on dit en anglais, mais particulièrement, individuellement, peut-être même sur des atomes particuliers. Et donc, les nanotechnologies, ce n'est pas seulement une échelle, ce sont des propriétés nouvelles et surtout des instruments nouveaux. Et pour répondre à ta question, alors que vient faire l'éthique dans cette histoire-là ? Ben, l'éthique, ça ne se rapporte pas à une échelle, mais à la nouveauté. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, bah, ça produit des fantasmes, ça nous fascine, ça nous ouvre des possibilités, ça fait peur, ça, il y a des gens qui crient à la catastrophe, et donc il faut trouver un peu son chemin parmi toutes ces visions entre le salut des nanotechnologies ou la catastrophe, comme dans certains romans de nanofiction. Et c'est là que cette réflexion sur la nouveauté, qu'est-ce qu'elle nous apporte, elle est intéressante.
Je ferais peut-être une, si on me donne une minute ou deux, juste pour être sûr que tout le monde comprend. D'abord, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne visualisent pas ce qu'est un nanomètre? Allez-y, ne vous gênez pas.
Est-ce qu'il y a des gens qui
ne
visualisent
le nanomètre? Je ne peux pas le voir.
Ne vous gênez pas pour poser des questions. Les seules questions stupides qui existent sont celles qui restent dans vos têtes. Si vous ne comprenez pas... d'autres personnes risquent de ne pas comprendre, alors n'hésitez pas. Alors, pour essayer de vous représenter ce qu'est un nanomètre, imaginez un mètre de couture en bois. Vous avez peut-être vu ça chez vos grands-parents. Moi, ma grand-mère en avait un, donc un mètre, c'est à peu près
de plus près
gras comme ça. Si vous prenez un mètre à couture et que vous le coupez en 1000 parties, vous obtenez ce qu'on appelle un millimètre. Donc, on peut se représenter ce qu'est un millimètre. Prenez ensuite ce millimètre et vous le coupez encore en 1000 parties, vous allez obtenir ce qu'on appelle un micromètre. Donc, pour vous donner une représentation, les globules rouges dans votre sang ont quelque chose comme 400 micromètres de diamètre, si j'ai bonne mémoire. Prenez ensuite un micromètre, coupez-le à nouveau en 1000 parties, là, vous allez avoir ce qu'on appelle un nanomètre. On est à l'échelle des atomes et des molécules. Et ce qui est intéressant, comme Alexis l'expliquait, c'est que lorsque l'on joue avec l'agencement des atomes et des molécules à cette échelle, on obtient des propriétés nouvelles. Exemple, si je prends l'atome de carbone, un atome très commun, et que j'attache les atomes de carbone à l'échelle nanométrique sous forme de feuillet, je vais obtenir à notre échelle un solide noir et mou qu'on appelle du graphite, et que vous connaissez sans doute tous pour l'avoir dans vos... dans les mines de vos crayons à l'école. Donc, on peut écrire avec du graphite, c'est mou, c'est noir, c'est salissant. Si je prends les mêmes atomes de carbone, mais qu'au lieu de les agencer en feuillets, je les agence en trois dimensions dans l'espace. Un atome de carbone, je lui mets quatre atomes de carbone et je rajoute d'autres atomes de carbone pour obtenir une sorte de cristal. Je n'obtiendrai pas du graphite, je vais obtenir ce qu'on appelle un diamant. On a une autre substance. Graphite et diamant, c'est des atomes de carbone. Ils sont juste agencés de la même façon, mais vous avez deux solides qui ont des propriétés différentes. D'un côté, un solide noir et salissant. De l'autre, une des matières les plus dures au monde. Un autre exemple, si je vous montre un lingot d'aluminium et que je le pose sur la table, il n'y a rien d'extraordinaire à en dire. Ça va être un lingot argenté, métallique, que pour beaucoup de conversations, bête et stupide, il n'y a rien à en faire. Si j'essaie de lui mettre le feu, il ne se passera rien. Mais attention, je prends le même lingot d'aluminium et je le fragmente. Je le réduis en poussière, dont chaque grain a la taille de quelques nanomètres. J'y jette une allumette et je serai capable, avec l'explosion qui va en résulter, de carboniser tous les gens qui sont ici. Donc, juste le fait de changer la taille des particules entraîne des propriétés nouvelles.
Maintenant, à quoi ça sert? Où sont les nanotechnologies dans votre vie? Très facilement, vous allez imperméabiliser vos chaussures. Ça vous arrive, vous savez, il faut mettre un spray. Ça, c'est des nanotechnologies. Aucun doute, c'est un aérosol formé de nanoparticules qui rendent simplement votre chaussure imperméable à l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'eau glisse, les gouttes d'eau glissent sur cette couche mince formée de particules qui se posent sur votre chaussure. Peindre une voiture, donc les peintures de voitures, c'est des nanotechnologies complètement, donc les nanomatériaux, je généralise. pas seulement les aérosols ou les peintures, mais les nanomatériaux, c'est un grand domaine. Tous les chimistes travaillent là-dessus. Les nanomatériaux aujourd'hui sont extrêmement importants, pas seulement pour le bâtiment ou pour les produits d'utilisation commun, mais par exemple aussi des nanomatériaux pour la médecine. Alors donc là, on va au deuxième domaine d'application. Quand vous êtes à cette échelle-là, vous pouvez alors aller vous promener dans le corps. Parce que, tu as dit tout à l'heure, les molécules, c'est de l'ordre de quelques microns, voire quelques centaines. Donc, les grandes parties du corps, c'est quelques centaines de microns, les cellules. Alors, quand vous êtes à l'échelle de nanomètres, vous y naviguez aussi bien que vous-même, vous naviguez dans une rue, entre les immeubles. Et donc, vous pouvez faire de la nanomédecine, par exemple, on rêve, on commence à y arriver, faire de la livraison ciblée des médicaments. Donc, vous avez des cellules cancéreuses, vous allez faire un petit engin qui va prendre le principe actif qui tue les cellules cancéreuses, il va aller chercher les cellules cancéreuses et appliquer le principe actif là où il faut, et pas statistiquement comme c'est le cas maintenant avec, avec les thérapies actuelles du cancer. Un autre domaine, bah, vous avez tous des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Nanoélectronique. Nanoélectronique, c'est les puces qui sont dans vos téléphones portables et vos ordinateurs utilisent des transistors qui sont soit de 22, soit peut-être même de 17, soit de 35 nanomètres de taille. Et donc, la nanoélectronique, elle est déjà complètement présente dans vos vies à travers tous les gadgets que vous utilisez. Donc, nanomédecine, nanoélectronique, nanomatériaux. On peut parler aussi, évidemment, des transports, de toutes les sphères. Finalement, les nanotechnologies, c'est ce qu'on appelle en français. C'est une traduction d'anglais, mais bon, vous la prenez comme pour ce qu'elle est. On appelle ça technologie capacitante. En anglais, on dit enabling technologies. Ça veut dire, c'est un peu comme l'électricité. C'est pas une technologie qui sert à faire une seule chose donnée. C'est un ensemble de techniques qui diffusent partout dans le domaine technologique et industriel. Ça sert à faire plein de choses. Donc, ça donne des nouvelles capacités. Alors, est-ce que ça soulève des questions ? Bah, bien sûr. Bah, déjà, avec le médical et la toxicité, avec les nouveaux matériaux et l'écotoxicité, etc. Donc, il y a tout un tas aussi nouvelles questions qui apparaissent. Mais gardez quand même en tête cette idée que la nouveauté ici provient toujours de notre capacité, elle nouvelle, de ce savoir-faire que nous avons acquis, d'intervenir à cette échelle-là. Et ça, c'est fantastique, parce que c'est une échelle, par exemple, que vous ne pouvez pas voir. C'est strictement inférieur. C'est pas parce que vous n'avez pas le bon microscope, hein, parce que vous n'avez pas acheté un microscope suffisamment puissant, mais parce que cette échelle est strictement inférieure à la longueur d'onde de la lumière visible. Vous voyez, vous ne pouvez pas y voir au sens optique du mot voir. Et par contre, vous voyez, à une échelle qu'on ne peut pas voir, même en théorie, on peut intervenir avec nos instruments d'aujourd'hui. Et ça, c'est génial, ça, c'est fantastique.
Et je rajouterais aussi, ben, pour surfer sur, en effet, un élément que tu as dit, ce qui est intéressant, en particulier avec les nanotechnologies, c'est que l'être humain a maintenant la capacité de manipuler la matière à l'échelle du nanomètre et de concevoir des nouveaux matériaux avec des propriétés différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette échelle du nanomètre, elle est commune à beaucoup de disciplines scientifiques. Encore aujourd'hui, dans les universités, on a tendance à diviser les disciplines en, il y a la biologie, la physique, la chimie, puis bon, on peut aller en sous-catégories. Mais toutes ces sous-disciplines se penchent sur des phénomènes ou des technologies qui se produisent à l'échelle du nanomètre, qui reposent sur des phénomènes qui se produisent à l'échelle du nanomètre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, grâce aux nanotechnologies, revisiter tous les domaines scientifiques qui existent. Comme Alexis l'expliquait, on peut faire des nanotechnologies en médecine. On peut faire des nanotechnologies en informatique avec les ordinateurs. On peut le faire en physique, en statique, en résistance des matériaux. Donc, on peut tout revisiter et c'est sans doute une des raisons qui a fait en sorte qu'on a attribué beaucoup de promesses aux nanotechnologies. C'est qu'on se disait, waouh, l'être humain est capable de travailler la matière à l'échelle du nanomètre. Il est capable de réinventer, de refaire tout ce qui se fait en biologie, en physique et en chimie. Donc, de faire du neuf, de l'inédit, ça va être une véritable révolution.
Faites une petite expérience de pensée. Je vais vous dire en 30 secondes comment on fait du nanoart. nanoart. Tu vas parler de la nanofiction peut-être tout à l'heure, mais je vais vous dire, nanoart, c'est quoi? Alors, plus petit que la longueur d'onde de la lumière visible. Donc, on ne peut pas voir ni à l'œil, ni avec un microscope optique. Et donc, à cette échelle-là, bah, évidemment, il n'y a pas de couleur, n'est-ce pas? C'est plus petit que la lumière, que la longueur d'onde de la lumière. Donc, couleur, hors de question. Alors, comment est-ce qu'on obtient de l'information de ce qui se passe que, si sur cette surface, il y a tels atomes, etc. Bah, vous avez, par exemple, un microscope à effet tunnel qui vient avec une toute petite aiguille et par effet tunnel quantique. Donc, bon, je vous invite à voir ce que c'est sur Wikipédia. L'aiguille se pose juste au-dessus de la surface, donc se promène. Il y a un courant qui passe, sans toucher. Hein. Il y a un courant qui passe et par la force de ce courant, on peut déduire ce qui est ou ce qui se trouve sur la surface. Et donc, ce sont des données numériques, hein, force du courant. Vous êtes d'accord, hein? On est très loin du nanoir encore. Alors, j'ai des données numériques, mais j'ai envie quand même de voir cette surface. Et donc, je vais représenter mes données numériques sous forme visuelle. D'accord, je veux faire une image, même si mes données au début ne viennent pas d'une image. C'est une image reconstruite, construite par moi, le scientifique ou le designer, ou qui vous voulez. Bon, par exemple, il y a un article scientifique assez intéressant où il y a quelque chose en forme d'un petit nuage, comme ça, en quelque sorte. Donc, c'est encore une fois, c'est pas une vision, c'est pas une vue, c'est une vue d'esprit. Et puis, quand vous publiez un article dans une revue, bon, vous savez, c'est pas très drôle de publier en noir et blanc, hein, donc vous allez, pour que ça fasse joli, ajouter des couleurs, des contrastes. Ces contrastes, ces couleurs, viennent complètement de moi comme designer, de moi comme scientifique, et pas du tout de l'appareil de mesure. Et simplement, imaginez que la machine vous donne une image, que je ne peux pas montrer malheureusement ici, mais je l'ai, hein, sous forme d'une explosion. Bon, pourquoi pas quelque chose qui a l'air comme ça, d'un nuage qui provient d'une explosion. Alors, vous la publiez et vous ajoutez du rouge, du noir. Ça va faire peur, n'est-ce pas? Champignon nucléaire. Tout le monde imagine un champignon nucléaire? Alors, ouais. Imaginez-vous un champignon nucléaire rouge, noir, bleu foncé, vraiment dangereux. Donc, qu'est-ce que vous allez penser des nanotechnologies si on vous sort une image comme ça? Bah, peut-être que, en tout cas, il faut y penser deux fois avant d'y aller, hein, avant de s'embarquer là-dedans. Et maintenant, la couleur, je vous ai dit, la couleur est complètement artificielle. C'est vous qui l'ajoutez. Maintenant, au lieu de mettre du rouge, vous mettez du vert. Un champignon nucléaire qui est vert, sympathique, ça s'appelle comment? Ça s'appelle
un brocoli.
Ça s'appelle un brocoli, exactement. Et là, vous voyez, ça se mange. C'est génial, les nanotechnologies. Et donc, vous avez complètement changé d'idée en jouant sur la couleur qui, elle, n'est pas là dans vos données. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous faites du nanoart. Vous prenez ce que les instruments de mesure vous disent, puis vous dites « Ah, ça ressemble à un joli château, donc je vais ajouter des couleurs pour que ça fasse un paysage avec un château, un mur, je ne sais quoi. » Ou après, autre chose peut ressembler à un Quingaman que vous avez mangé ici. Donc, vous ajoutez des couleurs, ça vous donne un Quingaman nanométrique. Nanoart, c'est la vue d'artiste de ces données qui sont parfaitement irreprésentables visuellement.
Imagine si au lieu d'un brocoli, ça avait donné un chou de Bruxelles.
Oui, Alexei parlait tout à l'heure de... Je m'adresse plutôt maintenant à l'auteur de science-fiction, mais Alexei parlait de fantasmes, des inquiétudes qui pouvaient naître des nanotechnologies. Est-ce qu'on peut avoir aussi des fantasmes positifs? Est-ce qu'on a, parce que c'est quelque chose qui est très à la mode, et tout ce que vous avez dit jusqu'à présent nous donnerait plutôt envie de fuir à toutes jambes plutôt que d'écrire des histoires sur ces questions. Qu'est-ce qui t'a amené et qu'est-ce qui peut amener des auteurs de science-fiction à jouer avec les nanotechnologies, à les prendre comme des objets positifs et à réfléchir sur les promesses, puisque c'est les tables de cette table ronde des nanotechnologies?
Eh bien, les nanotechnologies, dans la réalité, ont été associées à ce qu'on appelle en bon français un hype, un engouement démesuré. Je vais vous faire une mise en contexte. D'un point de vue historique, chaque fois que l'être humain a appris à manipuler la matière à une certaine échelle, on a observé, ou certains ont observé, une révolution industrielle correspondante. Donc, quand on a commencé à bien manipuler la matière à l'échelle du millimètre, à la fin du 19e siècle, on a obtenu la révolution industrielle, avec tout ce que ça a apporté de changements sociaux. Lorsqu'on a appris à bien manipuler la matière à l'échelle du micromètre, on a obtenu la révolution électronique, l'informatique et tout ça. Donc, on sait les impacts que ça a eu lieu sur la société. Alors, quand on est arrivé à manipuler la matière à l'échelle du nanomètre, certains se sont dit, bon, qu'est-ce que ça va nous amener? Et là, on s'est mis à rêver. On avait, comme je le disais tantôt, on voyait la possibilité de tout réinventer ce qui se faisait dans les sciences et les technologies. On s'est mis à imaginer qu'on pourrait découvrir des nouveaux phénomènes inconnus ou inventer des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc, il y a quelque chose d'enthousiaste à l'idée de penser que, avec les nanotechnologies, on pouvait faire rentrer le monde dans une nouvelle ère. Et beaucoup d'auteurs de science-fiction ont sauté là-dessus, évidemment. Ils se sont mis à imaginer les nanotechnologies comme des sources de miracles, à mon avis. Donc, d'applications technologiques nouvelles, mais tellement extraordinaires pour nous qu'on frôle la magie. Donc, il y a des auteurs de science-fiction qui se sont mis à imaginer des mondes complètement réinventés par la nanotechnologie. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Spontanément, malheureusement, c'est les exemples négatifs qui me viennent en tête, surtout peut-être parce que j'ai envie de les critiquer. Mais je crois qu'il y avait Neil Stephenson dans L'Âge de Diamant qui avait imaginé une société utopique où tout reposait sur les nanotechnologies. Donc, les nanotechnologies étaient porteuses d'une promesse de renouveau. Pour un auteur de science-fiction, c'est séduisant, cette idée de renouveau. Justement, un auteur de science-fiction crée de nouveaux mondes. Et les nanotechnologies sont un bon outil à employer pour imaginer un monde nouveau. Donc, à mon avis, une partie de l'intérêt des auteurs de science-fiction pour les nanotechnologies vient de là. Moi, à titre personnel, dans mes histoires, je fais intervenir des nanotechnologies, mais le but de mes histoires n'est pas de parler de la nanotechnologie, ce n'est pas de la vulgariser. C'est un outil commode pour inventer de nouveaux mondes. Au même titre que dans certaines histoires que j'ai faites qui sont post-apocalyptiques, j'ai employé des apocalypses mondiales pour réinventer le monde. Non, après tout, le monde aujourd'hui, s'il ne nous plaît pas, qu'on va en inventer un nouveau, une bonne petite apocalypse, on tue tout le monde, ça va être bon pour la santé, on fait autre chose. Ça a été la même chose pour les nanos.
Exemple, dans 20 ans, pour votre déjeuner, vous vous mettez devant un distributeur qui vend des sandwichs. Et vous appuyez sur autant de carbone, autant de calcium, autant de magnésium. Il vous dit 2 euros, hop, hop, hop. Et à partir d'atomes, l'atome, j'ai bien dit, il vous fabrique votre sandwich. Ça fait rêver, hein? C'est un des premiers exemples de cette nanofiction. Qui ont été avancés dans les années 90, hein, faire des produits macroscopiques à partir d'atomes. D'ailleurs, je vous signale, à l'échelle nanométrique, il n'y a aucune différence entre le vivant et l'inorganique. Donc, que vous fassiez un sandwich ou un être vivant à partir d'atomes, votre distributeur peut aussi bien faire un oiseau, si vous avez un distributeur comme ça. Et donc, vous écrivez de la nanofiction sur la fabrication à partir de l'échelle nanométrique. Un petit problème, qui d'ailleurs est apparu dans les débats aussi à la fin des années 90, c'est un débat fameux qui s'appelle le débat Drexler-Smalley sur la nanotechnologie. Le problème, c'est que fabriquer, mais comment ? Quand vous fabriquez une voiture sur un conveyeur Ford, vous voyez bien, vous prenez chaque pièce, vous la mettez à sa place et ça vous fait une voiture. Alors, ça ne marche pas à l'échelle nanométrique parce que du moment où vous prenez une pièce, vous ne pouvez plus la lâcher. Ça s'appelle le problème des doigts gluants. D'accord ? Parce qu'à l'échelle nanométrique, vous ne faites pas de distinction entre la pince et la chose que vous êtes en train d'amener là où il faut. Et donc, cette vision mécanique qui a été très, très, très utilisée par les auteurs des romans de nanofiction, qu'à l'échelle nanométrique, on peut juste, comme si on était sur un conveyeur pour faire des machines, là, pour faire des voitures. Non, non, ça ne marche pas à l'échelle nanométrique à cause de la chimie. Hein. Heureusement, il y a la chimie, hein. C'est pas purement mécanique. Et donc, le problème des doigts gluants, comment faire de la nanofabrication est un vrai problème scientifique très important parce que la nanofabrication n'est pas une science mécanique. Nanofabrication, ça, il faut tenir compte de toute la chimie autour, de la nanofluidique, donc de tout ce qui est les liquides à cette échelle-là, etc. Et donc, scientifiquement, c'est très compliqué. Par contre, évidemment, les visions de départ, c'était des grandes visions. On va se faire un distributeur à fabriquer des oiseaux comme des sandwichs. Et donc, on va écrire des romans avec tout ça. Mais c'est ça la beauté aussi de cette nanofiction, que ça a donné, malgré toutes les difficultés, ça a donné des idées aux scientifiques. Et vous savez que, par exemple, le prix Nobel de cette année en chimie a été donné aux développeurs des machines moléculaires. Alors, on ne va pas dire que ce sont des visions de Drexler, des nanomachines du début des années 90, mais clairement, cette nanofiction donne des idées, nourrit l'imaginaire des scientifiques. Et même si on ne peut pas faire de la fabrication conveyeur mécanique, on fait quand même de la nanofabrication.
Dans excuse-moi. Je veux dire, Alexis a mentionné le nom de Drexler. Je crois que ce serait intéressant de peut-être prendre une minute pour vous expliquer qui c'est et surtout pour vous faire prendre conscience que quand on parle de nanotechnologie, en fait, il existe deux grandes définitions de ce qu'est la nanotechnologie. Et je crois qu'en science-fiction, on a tendance à en employer une, tandis que dans la réalité, c'est la seconde. Je fouille ma mémoire. Le mot nanotechnologie a été popularisé dans les années 80, en 1986, si j'ai bonne mémoire, quand un ingénieur du nom de K. Eric Drexler, je ne me souviens pas c'était pourquoi le K., Eric, disons qu'il s'appelle juste Eric Drexler, a écrit un livre qui s'appelait « Engin de création », dans lequel il imaginait, entre autres, des technologies qui permettraient de réassembler la matière atome par atome et de fabriquer un sandwich, un médicament, un livre, un robot, ce que vous voulez. Il y avait cette idée de petit robot qui était capable de manipuler la matière atome par atome. Drexler n'est pas l'inventeur du mot nanotechnologie. Pour décrire la technologie qu'il imaginait, il est allé emprunter le nom à un Japonais qu'il avait inventé pour un autre contexte. Donc, on a notre monsieur Drexler qui popularise une vision de la nanotechnologie où on manipule la matière atome par atome. La nanotechnologie, ensuite, connaît certains développements. Et dans les années, mon Dieu, ce que c'est, 90-2000, mais après Drexler, vous avez un autre chimiste, Richard Smalley, si j'ai bonne mémoire, qui propose une autre définition de la nanotechnologie, qui est d'employer les outils de la chimie et de la physique tels qu'on les connaît pour pouvoir manipuler la matière à l'échelle du nanomètre et créer de nouveaux matériaux avec de nouvelles applications et réinventer des procédés dans d'autres domaines. Dites-vous que je vous fais un résumé très simpliste. Il y a certains experts en nanotechnologie qui vont vouloir m'arracher la tête. J'espère que tu ne vas pas me frapper avec le micro. Mais donc, c'est très grossier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de nanotechnologie, il existe deux paradigmes. Le paradigme de Drexler et le paradigme de Smalley. Il faut toujours se demander de quel nano on nous parle. Les auteurs de science-fiction aiment beaucoup les nanotechnologies telles que Eric Drexler les décrivait, mais cette nanotechnologie-là est encore très fictionnelle. Comme tu l'expliquais, manipuler la matière atome par atome, c'est très difficile. On ne peut pas créer de pinces qui vont aller manipuler un atome séparément parce que ces pinces-là auraient aussi la taille d'un atome. Ce serait comme manipuler un petit objet avec des gros doigts gluants. Mais en revanche, les nanotechnologies telles qu'on les fait aujourd'hui se rapprochent plus de celles de Richard Smalley. Smalley, où ce qu'on fait dans les universités paraît très banal. On emploie les techniques de la chimie et de la physique qu'on connaît depuis longtemps juste pour mieux manipuler la matière.
Pour dégonfler, je peux un peu revenir sur Terre. Un exemple qui énerve tous les toxicologues aujourd'hui. Vous avez des nanoparticules, des nanomatériaux, vous tous, quand vous allez à la plage, vous mettez une crème solaire sur la peau. Ça s'appelle le dioxyde de titane. Ce qui est dedans dans cette crème solaire, c'est pour ça qu'elle est transparente, elle n'est pas blanche. Le dioxyde de titane qui est dedans, d'ailleurs le dioxyde de titane, vous l'utilisez, enfin, vous le rencontrez plusieurs fois dans vos vies avec les les produits alimentaires, plein de choses. Mais le dioxyde de titane qui est dans les crèmes solaires est transparent, c'est-à-dire, pourquoi il est transparent ? Parce qu'il est nanométrique. Ce sont des particules nanométriques. Donc, tous les... C'est très bien, hein, les crèmes sont transparentes, agissent, pas de problème. Tous les toxicologues d'aujourd'hui se demandent comment caractériser le danger de ce dioxyde de titane nanométrique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez du dioxyde de titane micrométrique, ça va. On sait que la dose fait le poison. Si vous en mettez trop sur la peau, bon, peut-être la peau ne va pas laisser passer le dioxyde de titane à travers la peau. Mais si par exemple, par hasard, un enfant mange d'un écran solaire, de la crème solaire, bon, alors il ne faut pas qu'il en mange plus que, parce que sinon ça fait des dégâts dans les organes intérieurs du corps. Et donc la dose fait le poison, c'est la toxicologie classique. Si vous prenez plus de 3 grammes de paracétamol par jour, vous allez avoir des problèmes. D'accord ? Limite, dose 3 grammes. Gramme, c'est la masse. Quand vous avez des nanoparticules, je vous ai dit, les propriétés nouvelles ne dépendent pas seulement de la masse, mais aussi de la forme, de la surface spécifique et de tout un tas de caractéristiques chimiques de ces nanoparticules. Donc il ne suffit pas de dire... La limite, la bonne dose, c'est X grammes ou milligrammes ou microgrammes. Il faut caractériser la dose pour chaque type de particule individuellement. Et des nanoparticules, il y en a, c'est pour ça que je n'aime pas le singulier. Il n'a pas la nanotechnologie, il a les nanotechnologies. Il n'a pas la nanoparticule, il y a des milliards de nanoparticules. Ici, quand vous respirez, à chaque fois que vous respirez, il y a plusieurs dizaines de milliers de nanoparticules qui entrent dans vos poumons, qui proviennent des feux, des volcans, de tout un tas de choses là. Et c'est normal, il y a des nanoparticules partout. Et donc, quand vous voulez caractériser, par exemple, la toxicité des nanoparticules, vous ne pouvez pas utiliser le schéma, la dose fait le poison. Alors comment faites-vous ? Vous devez réinventer le métier de toxicologue. Donc vous voyez, on est assez loin de la fiction drexlérienne et on est dans le domaine des questions scientifiques tout à fait réelles, tout à fait concrètes, et ça aussi, ce sont des nanotechnologies. Donc ça va de la haute fiction jusqu'à la réalité des crèmes solaires.
Tu évoquais tout à l'heure les allers-retours entre la fiction et la science dans le cas des nanotechnologies. On peut même se demander où est la poule et où est l'œuf. Je pense que l'une des toutes premières mentions de nanotechnologie, même s'il n'en existait pas encore, c'est dans le Between Planets de Heinlein en 1953. Et les premiers scientifiques qui se sont emparés de la chose, je pense à Richard Feynman par exemple, grand physicien devant l'éternel, mais qui est un théoricien de la mécanique quantique, qui n'est pas du tout un ingénieur mécanicien, qui a mis au défi les mécaniciens de faire un nanomoteur, en tout cas un micromoteur, c'est-à-dire un moteur suffisamment petit dont chacune des pièces était... à l'échelle nanométrique. Pour toi, est-ce qu'il y a effectivement une influence de la fiction sur l'imaginaire scientifique, ou une co-création d'imaginaire scientifique par la science et la fiction ? Et d'autre part, est-ce que c'est courant dans l'histoire des sciences d'avoir une telle porosité entre la fiction et la science ?
Oui. Alors, je ne sais pas si vous aimez ou pas Feynman. Moi, pas beaucoup, hein. Mais quand même, c'est une figure mythique. Il faut lui rendre ce qu'on lui doit. C'est un physicien important, pas fantastique. Enfin, c'est pas le plus grand physicien du XXe siècle, mais en tant que figure mythique de la science du XXe siècle, il a mis le doigt où il fallait.
Il y a eu le prix Nobel, je crois.
Oui. Il a fait deux ou trois choses importantes quand même. Pas que je sois trop injuste, okay. Tu as raison.
Mais c'est un des pères de la bombe atomique.
Oui, équilibré. Bon, écoutez, Feynman, il avait ce talent de formuler des petites phrases qui restent. Et c'est pour ça qu'il est devenu la figure mythique de l'ingénieur sans être ingénieur. Pour, par exemple, une autre discipline scientifique complètement en boom, en développement aujourd'hui, la biologie de synthèse, la biologie synthétique, il avait dit « ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas comprendre ». Et c'est devenu la phrase mythique, la phrase fondatrice de toute la biologie de synthèse. Pour les nanotechnologies, un peu avant, à la fin des années 50, donc bien avant le microscope à effet tunnel, il a dit... En anglais, je cite, puis je traduis, il a dit « There is plenty of room at the bottom ». Il y a plein de place, plein d'espace en bas, tout en bas. Et c'est devenu la phrase de référence un peu le premier énoncé nanotechnologique de l'histoire, même si Feynman n'a jamais rien fait de concret. Et donc, aujourd'hui, quand vous lisez un livre sur les nanos, ça commence par Feynman, « There is plenty of room at the bottom », tout de suite. Y a-t-il un aller-retour entre cet aller-retour entre la fiction, le rêve, l'imagination et la science est nouveau ou pas pour les nanos? Oui, je pense que très clairement, on peut dire, par exemple avec les machines moléculaires, avec la livraison ciblée des médicaments, on pense à un petit engin, presque avec des roues, vous voyez, une espèce de carrosse, qui va entrer dans le flux sanguin et se promener et livrer le médicament, s'attacher là où il faut, etc. Ça, c'est vraiment une vision qui, avant d'être scientifique, ça a été dans la science-fiction, complètement. Donc oui, le rêve, l'imaginaire, etc., nourrissent les projets de recherche réels, scientifiques. Est-ce que c'est nouveau pour les nanos? Est-ce que ça a apparu avec les nanos? Non. Alors, pas seulement le sous-marin, mais aussi le voyage dans l'espace. Vous connaissez tous ces grands rêves du 19e siècle qui sont devenus petit à petit réels avec les technologies du 20e. Donc, je ne dirais pas que le va-et-vient entre la fiction et la science soit quelque chose de nouveau et spécifique pour les nanos. Ce qui est... intéressant peut-être pour les nanotechnologies, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'une seule fonction. Je vais aller en espace, voilà. Ça me fera du bien. Comme Tsiolkovsky rêvait, les cosmistes russes des années 1900 rêvaient des voyages dans l'espace parce qu'ils pensaient qu'on allait ressusciter tous les morts et donc il n'y aura plus assez de place sur Terre pour mettre les gens. Et alors, où les mettre? Dans l'espace. Et donc, pour ça, il fallait créer des engins capables d'aller dans l'espace. Et c'est le début, en fait, des fuseaux. Enfin, c'est vraiment comme ça, par cette fiction de l'immortalité, qu'on a commencé à travailler sur les voyages dans l'espace. Alors, avec les nanos, ce qui est différent, s'il y a une différence, s'il faut trouver une différence, à mon avis, c'est que ça n'a jamais servi une seule fin, un seul objectif. Ça a toujours été vu, et par la fiction et par la science, comme quelque chose qui diffuse, qui traverse plusieurs disciplines, plusieurs champs, de l'électronique jusqu'à la médecine, jusqu'à tout ce que vous voulez. Et cette vision qu'on va pouvoir tout faire avec, évidemment en science on peut pas tout faire avec, mais on peut faire beaucoup de choses quand même à travers plusieurs secteurs. Et ça, c'est une petite particularité du domaine nano.
Et toi, Philippe Haber, quelle est ta source d'inspiration? Je sais que tu as aussi travaillé sur une nanotechnologie. Oui, tu es ici comme auteur, mais tu avais fait aussi une thèse sur ce genre de questions. Est-ce que ton inspiration d'auteur de science-fiction provient en partie de ces études, de lectures scientifiques ou de tes lectures de science-fiction, ta vaste culture en science-fiction en général?
Donc, ma passion pour les nanos, pour la science-fiction?
Pour les nanos spécifiquement.
Pour les nanos Dans mon cas, mais ça c'est purement autobiographique, je me souviens que mon premier contact avec les nanotechnologies, ça a été par la série Au-delà du réel, nouvelle version, pas la série en noir et blanc d'origine, où c'est un scénario catastrophe comme on le voit souvent, où un chercheur s'injectait des nanorobots pour le guérir, mais les nanorobots commençaient à le modifier un peu trop. Les nanorobots, justement, estimaient que le chercheur, il n'était pas capable de respirer sous l'eau quand il nageait et allait s'entraîner à la piscine. Donc, il se mettait à lui faire pousser des branchies, des choses comme ça. Donc, c'était un scénario négatif, mais cette idée de structure, de la grandeur d'un nanomètre capable de faire de grandes choses, avait marqué mon imagination. Et quand je suis arrivé à Montréal pour faire un doctorat en bioéthique, je ne savais pas sur quel sujet me pencher. Ça a donné que la commission de l'éthique en sciences et en technologie, qui travaille pour le gouvernement du Québec, a publié un avis sur les enjeux éthiques des nanotechnologies en 2006. Donc là, je me suis rappelé de ça. Ah, nanotechnologie, c'est ce que j'avais vu dans Au-delà du réel. Je vais aller voir de quoi ça a l'air pour vrai. Parce que je me doutais que c'était pas une technologie qui visait à nous faire pousser des branchies. Donc, je voulais aller voir de quoi il s'agissait. Et ça avait été un séminaire très intéressant. C'était nouveau, on en parlait beaucoup, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et je me suis dit, il me semble qu'au Québec, il ne s'est pas fait beaucoup de recherche en éthique sur ce sujet-là, donc je vais me faufiler. Et j'ai fait une thèse dont le sujet était l'utilisation des médias pour l'encadrement éthique des nanotechnologies, justement parce que les médias constituent une courroie de transmission importante entre les sciences et la population, et ils véhiculaient toutes sortes d'images sur les nanotechnologies. Donc, c'était cet acteur-là que j'étais allé examiner dans le cadre de ma thèse. Pour ce qui est des écrits de science-fiction, les nanotechnologies, je les emploie surtout comme prétexte. Comme je le disais tantôt, c'est un très bel outil pour justifier des mondes aberrants. Et moi, personnellement, ma source d'inspiration dans mes récits science-fiction ne sont pas la science. Je ne parle pas de la science. J'ai tendance à imaginer un monde aberrant. Comme je le disais sur une autre table ronde, j'adore les films de Terry Gilliam qui sont sautés, les Monty Python. Les aventures du baron de Munchausen, c'est un de mes films préférés. C'est vraiment, mais on voit ce film-là puis on dit, mais c'est pété. Qu'est-ce que le réalisateur a fumé pour imaginer un monde de même? Alors, moi, j'aime imaginer un monde complètement aberrant, essayer de le justifier par après. Et les nanotechnologies sont très commodes pour inventer n'importe quoi. Très commodes, c'est un très beau prétexte, c'est un très bel outil. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à les utiliser.
J'imagine qu'il y a énormément de questions sur ces sujets, donc je préfère garder un peu de temps. Je propose de donner la parole à la salle, quitte à revenir ensuite pour quelques mots de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants ? Non, nous avons réussi à tous vous anesthésier.
Oui, c'est juste pour savoir s'il y avait des recherches ou des applications de type militaire.
Excuse-moi, j'entends absolument rien.
C'est pour savoir s'il y avait des recherches ou des applications dans le champ militaire, ou si ça relève plus d'un fantasme de la science-fiction.
Oui, bien sûr. Toutes les nouvelles technologies sont, pratiquement toutes sont des technologies duales. Ça veut dire qu'il a des usages militaires pour la défense, la sécurité et des usages civils. Que peuvent faire les nanotechnologies pour un soldat ? Les nanotechnologies peuvent faire des nanomatériaux, donc plus légers, plus résistants pour l'uniforme, l'armure, les lunettes, tout ce qu'on veut. Donc déjà, ce que porte un fantassin, ça pesait quelques dizaines de kilos, il y a encore, on va dire, 15-20 ans. Ça a été quand même divisé en fonction des armées, par un coefficient allant de 2 à 4, en utilisant des matériaux qui donc, ont été d'abord conçus dans le domaine militaire, pour les soldats, pour l'uniforme des soldats. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin de sport et vous achetez un vélo, vous achetez un pantalon très léger ou un vélo avec des fibres de carbone, donc vous voyez qui ne pèse que quelques kilos. Alors ça nous vient du domaine militaire, ça a d'abord été employé et développé par les militaires. Il y a un autre exemple, c'est pas juste le poids, mais par exemple la résistance. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un pantalon ou une veste telle que si vous versez un verre de vin là-dessus, rien ne se passe. Donc vous nettoyez et c'est bon, hein, le pantalon reste entier, la veste reste sans tache. Ça nous vient encore une fois du domaine militaire, c'est du transfert entre le militaire et le civil. Donc vous voyez, évidemment, il y a des utilisations dans le domaine militaire, je ne parle pas de la nanoélectronique, elle est partout dans tous les secteurs, mais des nanomatériaux développés pour les fins de défense ou de sécurité et qui souvent ensuite sont employés par les industries civiles.
Un autre exemple d'application militaire qui est assez amusant, c'est dans le domaine, là, ma langue a tendance à fourcher, il faut que je fasse attention, dans le domaine nano-agroalimentaire, essayer de faire ça au Scrabble. Ils ont essayé, je crois qu'ils ont réussi à mettre au point des sortes de barres protéiniques ou des rations qui vont libérer beaucoup plus de nutriments ou même libérer des nutriments sur une longue période. Donc, ce qui fait qu'un soldat pourrait prendre sa petite barre le matin et il n'aurait pas à manger pendant 2-3 jours, ce qui peut être intéressant si on se perd dans le désert, si on se perd au front, tout ça. Donc, posez-vous la question, si vous avez, ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux se souviennent que les elfes fabriquent un pain, que quand on en prend une petite bouchée, on peut être plusieurs jours sans manger.
Le lembas.
Donc, c'est une nanotechnologie et c'est pas étonnant, les nanos sont partout, même chez Tolkien. Elles sont partout, je vous dis.
Voilà, si vous voulez devenir des petits elfes, faites des nanotechnologies dans la vie, vous aurez ça. Mais dans le domaine aussi, bien sûr, dans le domaine médical et biologique, il y a des choses qui font peur, hein, parce que avec les nanos, on peut faire des aliments, mais on peut aussi empoisonner. On peut aussi tuer à la carte ou faire des dégâts à la carte, par exemple, à une espèce biologique donnée. C'est pas inenvisageable. Et effectivement, vous trouvez aujourd'hui, et dans le domaine des armes chimiques, et dans le domaine des armes biologiques, des choses qui utilisent des procédés de nanofabrication. Est-ce que c'est quelque chose de radicalement nouveau ? Ben alors non, je dirais, les questions que posent ces armes sont tout à fait les mêmes que les questions posées par les armes chimiques et les armes biologiques d'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Par contre, les capacités évoluent. Oui, donc on peut faire des choses différentes, mais est-ce qu'il faut des conventions internationales ? Oui. Est-ce qu'il faut des processus internationaux de non-prolifération ? Oui, etc., etc. Donc les questions sont-elles, les questions de société, les questions éthiques, les questions sont-elles nouvelles à cause de ce petit préfixe nano ? Je ne dirais pas que les questions sont nouvelles, mais elles sont tout aussi importantes, souvent réactualisées par ces nouvelles capacités, nouvelles propriétés que donnent les instruments des nanotechnologies.
Je voulais savoir si on arrive ou si on aura intérêt à fabriquer des sortes de nanobatteries ou des nanopiles à hydrogène ou des batteries.
Les batteries, c'est un énorme domaine de recherche. Tu vois, pareil. Alors, heureusement qu'en France, on a quelques leaders de ces recherches à Grenoble. D'ailleurs, bon, je travaille au CEA, mais pas à Grenoble, mais s'il y a des Grenoblois ici, ça se passe à Grenoble. Les progrès des batteries d'aujourd'hui, et ça, je pense que je peux dire sans même avoir de doute là-dedans, toutes les batteries qui progressent aujourd'hui progressent grâce au passage des micromatériaux vers les nanomatériaux. Si vos batteries lithium-ion, il y a 10 ou 15 ans, duraient X minutes ou heures, d'accord, et on passe aujourd'hui plutôt à 4X, quelque chose comme ça, comme coefficient, les batteries pour les voitures électriques ont énormément progressé. Vous vous souvenez encore, il y a quelques années, on parlait de 100 km, aujourd'hui on parle même pas de 300, on parle déjà de 500, peut-être même plus, pour les batteries des voitures électriques. Ça, c'est grâce au fait qu'il y a des nanomatériaux dedans. Donc les batteries, c'est 100% nanomatériaux.
Au Québec, il y a une intense recherche conduite par Hydro-Québec, qui est le responsable de notre hydroélectricité, pour créer de nouvelles batteries qu'on peut charger, décharger et recharger facilement à volonté sans les utiliser. L'idée, en effet, est que premièrement, de donner aux voitures une très grande autonomie. Puis avec les nouveaux matériaux, ils ont mis au point des batteries très intéressantes. Parce que le problème des voitures électriques actuelles, c'est qu'une fois qu'on les charge, on peut juste faire quelques kilomètres. 100 km, 150. Au Québec, une autonomie de 100 km, c'est impossible. La distance entre Québec et Montréal est de 250-300 km, pour dire. Mais l'idée d'Hydro-Québec aussi, c'est que comme on a un hiver très froid et qu'en période de froid intense, on a besoin d'un surplus d'électricité, et que c'est pas évident à produire, surtout s'il y a des lignes qui tombent. Alors, l'idée est que toute la population, chaque foyer aurait sa voiture électrique branchée au réseau électrique d'Hydro-Québec pour charger pendant la nuit, et qu'en cas de besoin de surplus énergétique, eh bien, on aille repiger dans les batteries de chaque voiture. Donc, toutes les voitures du Québec deviendraient un énorme réservoir électrique dans lequel on pourrait aller repiger. Mais là, ça suscite des controverses, en effet, parce que Hydro-Québec donne de l'électricité et la reprend. Où va l'argent dans tout ça? Est-ce qui va payer? Donc, c'est encore à l'état de projet.
OK. Il y avait une question au fond.
Bonjour. Moi, je me posais la question, maintenant on est à l'échelle des nanomètres, mais est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer descendre encore une échelle plus bas, et qu'est-ce que ça pourrait donner?
Bon, alors, ça, on va donner picomètre, mais descendre, ça veut dire quoi? En quelque sorte, on est déjà au CERN avec les accélérateurs des particules élémentaires, on est à des échelles qui ne sont pas juste 1000 fois plus petites, mais 10 puissance 9 fois plus petites que les nanomètres. Mais soyons clairs, quand on parle de matière, donc composée d'atomes, je ne parle même pas de molécules, d'atomes, vous pouvez aller jusqu'à un angstrom, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 ou 0,1 nanomètre. Ça, c'est la taille de d'un atome, disons, de petits atomes. Un atome d'hydrogène, il fait 2 angstrom, quelque chose comme ça. Aller plus bas, vous n'avez plus de matière, c'est fini. Donc vous êtes à l'intérieur d'un atome, voire si vous descendez encore plus bas, vous êtes à l'intérieur du noyau. La physique des particules est liée depuis 70 ans, même plus. Donc c'est pas aller à ces échelles-là, c'est pas nouveau, on y est. Par contre, faire de la science des matériaux à cette échelle-là, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de matériaux.
Bonjour, j'aimerais savoir, je crois savoir plutôt, qu'on n'a aucune obligation d'indication d'utilisation de nanoparticules dans ce que j'achète, hein, que ce soit les produits de beauté ou que ce soit un collant ou n'importe quoi. Et pourquoi, puisqu'on parle d'éthique, pourquoi on n'irait pas vers une obligation d'indication d'utilisation de nanoparticules?
Si, un petit catalogue de quelques obligations qui existent. Alors, en France, il y a depuis la loi Grenelle 2 la déclaration obligatoire par tous les producteurs et les importateurs de tous les nanomatériaux. Et il y a un catalogue public qui s'appelle r-nano.fr, vous pouvez aller voir. L'agence ANSES y travaille tout le temps. Donc, il y a un groupe de travail à l'agence de sécurité alimentaire, sécurité, etc. Donc, à l'agence ANSES française sur ces questions-là. Au niveau, par exemple, européen, il y a, c'est par secteur en Europe. En France, c'est tout secteur confondu. Si c'est nano, il faut déclarer, il faut faire une étude pour l'ANSES. En Europe, c'est par secteur. Donc, par exemple, pour tout ce qui est produits cosmétiques, la prochaine fois que vous allez acheter une crème solaire, regardez, ça va être écrit entre crochets, titanium O2, donc dioxyde de titane, entre crochets nano. Ça, c'est nouveau. C'est depuis 2 ans que c'est obligatoire. C'est un étiquetage obligatoire dans les cosmétiques et dans l'alimentaire. Alors, la question, vous pouvez me dire, bon, étiquetage, ça vaut quoi? Qui lit ça? Vous avez déjà lu ce qui est dans votre crème solaire? Mais personne ne lit, c'est trop petit, là. Donc ça, on appelle ça information du consommateur, mais est-ce que le consommateur a compris quelque chose? C'est ça la question. Et quel est le message? Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple avec les champignons nucléaires du décalage entre les données prélevées, donc les données scientifiques, et le message. Quand vous voyez un champignon nucléaire, vous avez peur. Mais ça, c'est le message qui n'a rien à voir avec les données, d'accord? Et là aussi, vous donnez au consommateur une information scientifique. Dioxyde de titane, titanium O2, nano, entre crochets. Qu'est-ce qu'il a compris? Quel est le sens de ce message? Ça, c'est la vraie question derrière que vous avez tout à fait raison de poser. Par contre, il existe donc des mesures d'information, de déclaration. Il y a tout un tas de choses. Là, je peux aller encore pendant 20 minutes comme ça en vous énumérant tout ce qui existe.
Au Canada, l'étiquetage est lacunaire encore. Ben, en matière d'OGM, ça n'a pas marché beaucoup. Mais je me souviens, dans le cadre de ma thèse, d'avoir regardé à Santé Canada une liste de médicaments anticancéreux dans lequel il y avait des nanotechnologies impliquées. Et je parle de nanoparticules et ce n'était pas indiqué. Il y a juste un seul médicament qui, dans sa notice sur le site de Santé Canada, se réclamait des nanotechnologies pour vanter ses mérites. Mais cependant, au Canada, il y avait eu un débat, je ne me souviens pas qu'est-ce que ça a donné depuis, où on se demandait à partir de quand étiqueter un médicament nano. Est-ce que c'est un médicament qui devait contenir des nanoparticules ou c'est un médicament qui avait été mis au point grâce à une nanotechnologie, mais dans lequel il n'y avait pas de nanoparticules? Ou bien est-ce que c'est un médicament dont la toxicité avait pu être testée avec des nanoparticules? Je vous donne juste un exemple. Lorsqu'on évalue la toxicité d'un médicament, on doit mesurer sa capacité à traverser la paroi intestinale. c'est compliqué de faire ça sur un être vivant. Donc, ce que certains chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont créé une paroi intestinale artificielle constituée de nanolipides et ils étudient comment les médicaments diffusent à travers cette paroi et ça donne une très bonne idée de ce qui se passe dans l'organisme. Cependant, si mon médicament n'est pas nanotechnologique, que ce n'est pas une nanoparticule, mais que j'ai employé cet outil-là, est-ce que je vais le déclarer nano? Donc, il y avait eu cette discussion au Canada. Ouais. Qui n'a pas donné grand-chose.
Juste pour revenir sur votre question à la fiction, à l'imaginaire, vous savez, il y a des industriels qui disent « Ah, dire que je fais des nanos, non, les gens vont avoir peur, ils ne vont jamais acheter. » Il y a un exemple, je vais quand même peut-être prononcer le nom, je ne vais pas prononcer le nom de cette société cosmétique très connue en France, qui ne dit jamais que, par exemple, les liposomes dans les produits cosmétiques sont nanométriques. Bah oui, bien sûr. Mais c'est une grande société cosmétique qui ne communique jamais sur le fait qu'ils font des nanotechnologies. Et à côté, donc vous voyez, ça c'est à cause des peurs. Ils pensent que les gens vont avoir peur. Et à côté, vous avez plusieurs producteurs de tabac, donc des cigarettes, hein. Vous allez, moi je fume pas, mais parfois vous allez dans les bureaux de tabac, vous achetez, vous voyez en tout cas les cigarettes en vente, et c'est marqué en gros caractère, c'est marqué nano. Alors pourquoi ? Bah parce que nano, c'est pas seulement pour faire peur, mais c'est aussi pour faire moderne, cool, parce que peut-être ça signifie qu'il y a un filtre très performant dedans. Et donc vous voyez, on trouve tout cet imaginaire des nanos aussi dans l'histoire de l'étiquetage.
La compagnie de cosmétiques en question que tu ne veux pas identifier, tu ne veux pas me dire le nom juste à moi, je serais curieux. Juste entre nous deux. Ouais.
Ça s'appelle L'Oréal.
Oh. Je ne le dirai pas.
Bonjour, merci pour toutes ces explications. En fait, je me suis aperçu qu'avant la conférence, je ne savais pas ce que c'est que la nanotechnologie. Et en fait, j'associais ça toujours aux nanomachines. Et vous en avez très peu parlé et je me demandais où est-ce qu'on en est, est-ce que ça existe et enfin, où on en est actuellement à propos de ça.
En matière de nanorobots, ça fait 4 ans que je n'ai pas touché au domaine, mais je sais qu'à l'École polytechnique de Montréal, ils ont eu des résultats intéressants. Ils ont conçu un petit nanorobot, mais ce qu'on entend par nanorobot, ça n'a pas nécessairement quelques...
On a transféré le nom sur des choses qui existent.
Exactement. On a repris l'idée du nanorobot et on a créé une petite bille de métal qui pourrait contenir des médicaments. Et on est parvenu à la faire circuler à travers le système circulatoire d'un port anesthésié grâce à un appareil à IRM. Mais c'est que l'approche de Polytechnique, ce qui est intéressant, c'est que au lieu de créer un engin autonome qui est vraiment un robot, comme c'est dur de faire tenir un moteur, du carburant plus un médicament là-dedans, on s'est dit on va enlever le moteur et on va prendre l'IRM pour le guider.
Mais donc, quand vous entendez parler de machines moléculaires, de nanomachines, nanorobots et compagnie, le prix Nobel cette année de chimie, machine moléculaire, l'imaginaire, cette phrase même, le mot même vient de la nanofiction, enfin de tout ce qui est Drexler et autres. Par contre, évidemment, on n'est pas en train de réaliser cette fiction à la lettre. On a pris ce mot et on a appelé par ce mot des choses très concrètes et réelles qu'on fait aujourd'hui.
Une toute dernière question peut-être ?
Bonjour. On entend beaucoup parler de nanomatériaux. Est-ce que on pourrait avoir une nanopollution? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une influence de
une nanopollution?
Voilà.
Oui. Donc je vous ai parlé un peu de la toxicologie, mais il y a aussi un autre grand domaine, écotoxicologie, c'est-à-dire dégâts aux environnements. Tout simplement, sans parler de volcans qui produisent des nanoparticules en grande quantité, hein. Simplement, toutes les voitures, les pneus des voitures sont couverts de ce qu'on appelle le carbone noir. Ça, c'est une forme nanométrique. Quand une voiture roule sur une chaussée, ça reste sur la chaussée. Après, il pleut, avec l'eau, ça part du côté, donc dans les fleuves, dans les rivières, ça. Qu'est-ce que ça devient ? Grande question. Autre exemple très connu aussi, vos machines à laver.
Donc quand vous lavez simplement des vêtements, souvent dans les poudres actuelles qu'on met dedans, il y a ce qu'on appelle l'argent nanométrique, parce que c'est l'argent à l'échelle nanométrique tue les bactéries. Je sais pas si aux États-Unis vous allez à la pharmacie carrément, vous achetez de l'argent et vous en mangez sous forme nanométrique. Je laisse ça aux Américains là. Je sais pas si on peut faire ça au Québec.
Si on peut le faire, je vais aller me faire des lingots tout de suite.
Ouais. Mais par contre, alors vous mettez donc de l'argent pour tuer des bactéries dans une machine à laver, et puis ça part avec l'eau dans les égouts, etc. Et qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça tue aussi des bonnes bactéries? Parce que dans les égouts, vous savez, ça va dans les stations d'épuration, etc. Donc, il y a des bactéries qui font du travail. Est-ce que ça va les tuer aussi ou pas? Donc, il y a tout un tas de questions sur l'écotoxicité. C'est un grand domaine de recherche.
Bon, je crois que l'argent nanométrique sera le mot de la fin. Je voudrais remercier nos intervenants. Vous remerciez tous de votre présence.
On est tous les deux à la librairie maintenant.
Absolument. Donc, vous pouvez les retrouver à la librairie, éventuellement, poursuivre la discussion. Pendant qu'ils vous dédicaceront leurs ouvrages. Merci à tous. Merci.